sont belles les rivières sauvages de France, hein, quand
bah
même.
Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup, du ça coup, c'est ça, il y en a qu'une vingtaine,
c'est ça. 28, ouais, on arrive à 28, là. Écoute, on a notre assemblée générale, on va dire, du réseau des rivières sauvages, vendredi prochain.
Okay.
Cette semaine, voilà. Donc on se retrouve à se voir en visio.
Oui, bah, c'est le grand prix, voilà, de 2020.
Ça, c'est un moment de convivialité assez sympa. Ça fait bizarre, ça.
Ouais, un vrai moment d'échange.
Les gens de toute la France, bah, t'as dû voir la carte un peu, ouais, sur les rivières de France, quoi. Tout ce qui est bleu, là, c'est les rivières labellisées en France.
Ouais, c'est une des seules, du coup, du sud-ouest.
Alors, sud-ouest, ouais, alors, c'est pas jusqu'où on va avec le sud-ouest, on le met jusqu'où, mais la Drône, bon, c'est la Dordogne, hein, on est sur la Nouvelle-Aquitaine.
Je m'appelle Laurent Desgras, je suis technicien médiateur de rivière au parc régional des Landes de Gascogne. Et donc là, on se situe sur les bords de la Grande de l'Aïron. Rivière labellisée site rivière sauvage depuis 2017.
Qu'est-ce que ça veut dire labellisée site rivière sauvage?
Bah, ça veut dire qu'elle a obtenu une certification pour la qualité de ce qu'elle est aujourd'hui, cette rivière, et qui est finalement un label très, très strict, puisqu'il n'y en a aujourd'hui que 28 en France, au travers d'une grille, un référentiel extrêmement, on va dire, pointu, qui permet aujourd'hui d'avoir des rivières qui sortent un peu du lot, puisqu'elles sont encore dans un état naturel de conservation, qui en fait aujourd'hui des rivières d'exception.
Parmi ces critères, est-ce qu'on peut avoir deux ou trois exemples?
Alors, avant tout, c'est la naturalité de la rivière. C'est-à-dire une rivière qui n'est pas contrainte, qui n'a pas eu de barrage, par exemple, sur son lit mineur. Une rivière où les arbres poussent comme ils veulent. Il n'y a pas eu de plantation sur les berges. Une rivière avec une biodiversité, du coup, en lien avec toute cette végétation. On parle de forêt-galerie, nous, sur la Leyre. C'est assez atypique en France aujourd'hui d'avoir des rivières-galeries. Et une activité humaine sur le territoire qui n'a pas non plus, à l'échelle du bassin versant, dégradé la qualité de la rivière. C'est-à-dire qu'on a des activités qui sont là aujourd'hui, qui existent depuis longtemps, la forêt, l'activité sylvicole, l'activité agricole, l'urbanisation. Aujourd'hui, ces activités, elles n'ont pas généré une dégradation de la rivière en aval. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais aujourd'hui, au niveau d'évaluation de la qualité de l'eau, au niveau on va dire de son fonctionnement, simplement, de la rivière, on a de bonnes notes en termes de qualité. Donc ça veut dire que voilà, toute l'eau, la goutte d'eau qui tombe sur le territoire, qui passe par l'activité agricole, qui passe par la forêt, qui passe par les zones habitées, ben, au final on n'a pas de mauvaise note. Voilà. On parle souvent de pesticides, de nitrates. Cette rivière, on en trouve sous forme de traces, quand il y a des phénomènes de crue notamment, mais globalement elle est en très bon état. Voilà. Et donc... En France aujourd'hui, voilà, c'est assez rare d'avoir ces qualités. On a une rivière aussi qui est attractive tout en étant maîtrisée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un loisir qu'on tente de maîtriser, qui permet de découvrir la rivière, je parle du canoë, mais pour lequel aujourd'hui on a une responsabilité de ne pas avoir un tourisme de masse, ce n'est pas dans l'éthique des rivières sauvages. Donc il faut permettre aux gens de découvrir cette rivière tout en mesurant, effectivement, en étant, on va dire, raisonnable quant à la densité des personnes sur la rivière. Pour découvrir la rivière, si on est les uns sur les autres, ça n'a pas de sens, on ne profite pas. Donc il faut que voilà, ça soit fait en bonne harmonie. Donc c'est notre rôle aussi de veiller à ça. Voilà. Donc... voilà, la rivière, dans son évolution, c'est une rivière jeune, hein, puisqu'elle a que 10 000 ans, 10-15 000 ans.
Donc, petite jeune, ouais.
Ouais, ouais, à l'échelle des rivières qu'on connaît dans le monde, c'est très jeune, puisqu'il y a des rivières qui ont des millions d'années, hein, la Garonne, la Dordogne, c'est plus ancien que nous, finalement, c'est très jeune. Et elle s'est construite dans le sable des Landes, hein, qui est là, voilà, donc elle continue encore à évoluer, Elle n'a pas un lit qui est figé dans le temps, dans l'espace, notamment avec les phénomènes de dérèglement climatique. On a des périodes de fortes crues, donc Elle vient de découvrir ça d'ailleurs, puisqu'elle n'a pas connu vraiment de crue majeure sur les 150 dernières années, à minimum de ce qu'on en sait. Et donc là, forcément, ça a bougé, elle a changé, elle a voulu changer de lit à plusieurs endroits. Voilà, donc c'est des dynamiques un peu nouvelles, mais disons qu'elle a, elle a cette jeunesse qui permet du coup aussi de la voir évoluer, quoi. Le peu de temps qu'on passe là sur la vie de la rivière, donc quelques cent ans pour les plus gaillards, mais sur la rivière finalement on passe peu de temps, mais là sur l'échelle de temps qu'on vit, on peut s'apercevoir de l'évolution naturelle, l'évolution anthropique, donc on doit veiller en fait, le fait de savoir qu'on est à un niveau d'exigence parce qu'on fait partie d'un réseau très fermé de rivières encore en bon état, nous donne encore plus de sens sur l'action qu'on doit conduire sur le temps où on est là.
L'idée du label, en fait, c'était ça aussi, c'était de continuer à faire ce travail de protection et d'apporter le soin nécessaire au maintien de cette rivière dans son état naturel.
Oui, le label, en fait, on l'obtient pour 5 ans. Et dans le label, on a l'obligation, quelque part, si on veut perdurer dans le temps, de préserver cette rivière avec un programme d'action qui vise notamment à des actions pas très lourdes, puisque la rivière elle est en bon état. Donc on va faire des opérations plutôt légères, à savoir en intervention sur la rivière, on va faire un entretien régulier, maîtriser, c'est-à-dire qu'on va faire de l'élagage de la rivière, mais sans trop, quoi, juste pour sécuriser le cours d'eau. On va enlever les quelques espèces invasives qui poussent sur les berges, parce que la forêt galerie est quand même assez épaisse, elle limite l'intrusion d'espèces dites non locales ou non indigènes. Je pense au catalpa, par exemple, à l'érable negundo. Voilà, ce sont des espèces qui habitent dans les villages, quelque part, des arbres d'ornement, et puis qui sont échappés, donc qui arrivent comme ça à s'installer. Donc on gère, en fait, pour garder cette naturalité, puisque le catalpa, l'érable negundo sont les espèces qui viennent d'Amérique, et donc on a introduit nous, donc on est responsable, finalement, d'une adéquation entre ce que la nature, elle, produit naturellement, on va dire, sur ces berges, et puis ce que l'homme apporte. Ouais. Donc, sur ces 5 ans, effectivement, pour garder cette naturalité, eh bien, donc on a un programme d'intervention qui va viser donc, notamment ces interventions-là. On a des anciennes décharges aussi, alors on n'en a pas beaucoup, mais des anciennes décharges des années 60, sur lesquelles aussi on est intervenu en cas du programme. Donc on a encore, on toilette un peu tous les ans une ancienne décharge au Pissos, au fur et à mesure qu'il y a des déchets qui remontent, mais qui sont des déchets, je ne vais pas dire inertes, parce qu'un déchet, c'est n'est jamais inerte, mais... on n'était pas à l'époque des plastiques, donc on est sur les déchets de fer, de bouteilles de verre, donc c'est essentiellement esthétique, on va dire, c'est un nettoyage esthétique, mais là aussi c'est une trace de l'homme à un moment de l'histoire, comme l'érable negundo qui peut être introduit, et bien une décharge à un moment, on l'enlève parce qu'on veut garder ce site naturel, le garder dans sa configuration initiale. Voilà. Et sur les actions du label, dans ces 5 ans-là, il y a aussi du suivi. Et ça, c'est intéressant, parce que vis-à-vis du dérèglement climatique qu'on subit et qu'on mesure d'autant plus maintenant au vu des derniers événements, l'ampleur des phénomènes, on va suivre aussi par ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire donner des éléments de suivi fin basé sur de la remontée d'informations du territoire, avec des capteurs, des choses qu'on met dans la rivière pour mesurer la qualité, pour mesurer les pressions, aussi être au plus près des pressions. Donc tous ces indicateurs-là nous permettent, voilà, de pouvoir suivre la rivière dans un contexte de changement climatique. Donc c'est assez intéressant, puisque voilà, aussi on veut protéger peut-être les rivières qui sont peut-être les plus résilientes aujourd'hui face au changement climatique. Et bien, c'est bien de regarder justement comment elles réagissent face à ces bouleversements dont on est en partie, bien évidemment, responsable.
J'étais venue sur un forum de l'itinérance nature.
Oui.
Et j'avais rencontré un jeune homme, je crois qu'il s'appelle Alexandre, de la pagaie sauvage.
Oui.
On avait parlé des microplastiques sur la Leyre. Ouais. Aujourd'hui, elle a impacté la Leyre, elle est touchée par ce phénomène terrible des microplastiques.
Alors l'action microplastique, c'est intéressant, puis ça fait partie justement des actions en rivière sauvage qu'on a rajouté puisque c'est quelque chose qui est arrivé en cours de la labellisation. Donc dans le programme de 5 ans, on a effectivement intégré ce travail-là d'évaluation des microplastiques. Donc c'est un travail qui est en cours, dont on a déjà, on va dire, des pistes de réflexion quant à la, on va dire, à la caractérisation de l'impact des microplastiques, nanoplastiques, donc c'est de l'infiniment petit, qui arrive dans la rivière, qui arrive depuis les zones habitées. On revient toujours sur les mêmes secteurs habités par les stations d'épuration. Ça arrive aussi, ça peut arriver des réseaux de fossés par les bords de route, parce que voilà, on voit tout ce qui est jeté comme plastique sur le bord de la route. Donc quand les rivières se mettent en eau, c'est les fossés qui se mettent en eau, et donc ces plastiques finissent à la rivière. Et donc on se rend compte, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas une concentration extrêmement importante, d'autant plus que pour analyser finement ces matériaux, il en faut une certaine quantité pour arriver justement à détecter réellement la présence. Donc des fois c'est difficile justement parce qu'il n'y en a pas énormément, donc c'est plutôt rassurant de les détecter. Par contre, on a d'autres éléments, ce qu'on va appeler les fibres, en fait, qu'on a tous sur nos vêtements. Hein. Voilà, il suffit qu'on frotte un peu nos vêtements et en fait, c'est tout simplement des petits morceaux de tissu, mais c'est du plastique, hein, qui sortent. Et donc là, on essaie de travailler là-dessus, puisque là, c'est des éléments qui sont extrêmement fins et que du coup, on arrive à retrouver dans la rivière. Mais quand on compare l'amont-laval, déjà, on voit une grosse différence entre la partie qui n'est pas labellisée, c'est-à-dire la partie aval, la partie girondine qui se jette au bassin d'Arcachon, et la partie amont landaise, où déjà il y a une distinction entre finalement, le quantitatif en termes de matériaux, où bien évidemment il y a moins de pression sur les terres, on va dire, landaises de la Leyre que sur la partie girondine. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce travail, dans cette étude, c'est qu'on va aussi évaluer. Alors là, c'est du travail de laboratoire, mais de volontairement faire ingérer en fait à des micro-organismes, à des mollusques, pardon, on leur fait ingérer justement ces matériaux qu'on trouve dans la rivière, et on voit comment ils les synthétisent. Ça nous permettra de mieux comprendre aussi comment les poissons dans la rivière, tout un tas d'êtres vivants dans la rivière, peuvent souffrir en fait, ou s'en dépatouiller, mais de ces éléments microplastiques. Donc ça, c'est quelque chose de très très nouveau aussi. Donc voilà, on est en train, il y a des études, hein, voilà, on recherche des choses, essayer de comprendre comment, voilà. Même si au départ, la première observation, c'est le 7e continent, avec tous ces microplastiques qu'on a sur l'océan, qui s'accumulent avec tous les plastiques visuels déjà de ce continent-là. Et donc voilà, ça interroge, puisque la 80% des déchets qui arrivent à l'océan viennent des terres. Donc bien évidemment, on a tous une responsabilité quant à la diffusion de ces plastiques. Le visuel, c'est souvent ça. De loin, quand on passe sur le pont de la Leyre, sur un des ponts de la Leyre, le visuel qu'on a, c'est les arbres. Voilà. Et les arbres sont à la source, on va dire, de tout un tas de cortèges de plantes, d'espèces plus petites. Hein. Mais si on s'approche d'un pin ou d'un chêne, on va avoir des lichens en quantité extraordinaire. On en a qui sont justement aussi, qui témoignent d'une très bonne qualité de l'espace, de l'environnement qu'on a ici. Il y a le visible, il y a l'invisible, et c'est vrai que quand on étudie un petit peu, on se rend compte de la diversité des plantes et de la faune qu'on peut avoir dans cette rivière. Donc là, les espèces présentes, alors il y a les espèces qu'on parle d'espèces sentinelles, comme la loutre par exemple. Alors les sentinelles et les espèces parapluies aussi. Sentinelle, c'est quoi? Sentinelle, ça veut dire que si elle va bien, ça veut dire que tout va bien. Et cette notion de parapluie nous donne aussi le détail de, bah, comme quand il pleut, comment on se protège. En fait, la loutre protège tout ce qu'il y a dessous, donc tous les petits mammifères autres dont elle peut en faire la consommation, à savoir des musaraignes, un musaraigne aquatique qu'on a sur la rivière, par exemple. Mais aussi les amphibiens, mais aussi donc tous les cortèges, les poissons, hein, voilà. Et donc elle a finalement un panel, un choix dans la nourriture, et Et ça, ce qui permet aussi qu'elle se porte bien, parce qu'elle a de quoi manger en diversité. Un peu comme nous, parce que si on mange un peu tout, on nous dit, donc c'est pas pareil pour elle, je pense, c'est mieux pour elle. Voilà. Mais donc voilà, donc voilà, elle est importante, quoi. C'est une espèce qui nous permet, du coup, parce qu'on la suit, de mieux comprendre par rapport à son régime alimentaire, la population aussi, en fonction des espèces de l'espèce présente à tel endroit, on sait si elle est toute seule, parce qu'on va, repérer l'ADN des crottes qu'elle laisse, en fait. Donc du coup, on va pouvoir savoir si c'est un mâle ou une femelle, si elle est toute seule, ou si elle vit à 3, 4, 5 dans un périmètre de temps. Enfin voilà, ça permet de mieux comprendre et de... Voilà, l'espèce, si elle se reproduit, ça veut dire que la rivière va bien, quoi, un peu. On peut se dire ça.
Donc après, voilà, c'est le côté paysage, le côté le bruit de l'eau, il y a plein de choses qui font en fait du sensoriel, le chant des oiseaux, qui font qu'en fait ces lieux-là sont intéressants par rapport à une rivière en bord de route bétonnée.
Oui, voilà. C'est autre chose.
On n'est pas sur la même chose. Donc ouais, après, les services, ils sont multiples. Donc, en fait, on peut en lister comme ça. Mmh. On parle de services écosystémiques. Donc, c'est des services qui rendent. C'est un service rendu.
Donc,
par
tout ceci, tout ce que vous essayez de maintenir, en fait, ça rentre dans le cadre de ce fameux programme sur la période 2017-2022.
2022, ouais, c'est ça.
Et donc, il y a cette histoire de mécénat qui entre en jeu maintenant.
C'est ça. En fait, actuellement, on parle beaucoup de financement participatif. Hein. Bon, c'est la logique veut, et c'est louable, que les gens s'approprient mieux en finançant les choses, s'approprient les sujets aussi au départ, quoi. Donc, chacun paie ses impôts, et puis c'est vrai que c'est bien de savoir où ils vont. Et quand on parle de mécénat, eh bien, on a concrètement une rivière avec une valeur. Et finalement, la rivière, en fait, nous donne une comment dire, la rivière nous apporte tout un tas de bénéfices que l'on peut aujourd'hui évaluer financièrement, des services qu'elle rend. Et au final, on se dit, en donnant à la rivière, en fait, elle nous le rend forcément. En fait, c'est juste la pensée la peut-être la plus simple, mais la plus honnête aussi, c'est ça. Quand on vient faire du canoë, quand on vient à la pêche, quand on l'eau qu'on boit dans une rivière sauvage, l'eau elle est de bonne qualité, donc c'est un service qu'elle nous rend par rapport à la qualité de la rivière. Elle évite aussi qu'on ait des problèmes d'inondation, quand il faut réparer, faire des digues parce que la rivière a débordé ou des maisons étaient sous l'eau, ben là on a laissé sa liberté, donc quelque part cet espace là aussi nous rend service, puisque ça nous évite des inondations conséquentes, majeures sur nos espaces de vie. Donc voilà, en fait c'est plein de services comme ça qui sont pas évalués financièrement et qui pour autant pourraient l'être en tout cas, et justifient en soi cette sollicitation de d'aide. Voilà, donnée à la rivière, elle vous le rendra.
Et donc tout le monde là peut devenir mécène de la Leyre, en fait.
Oui, tout à fait, tout le monde peut être mécène. Alors je veux dire, à titre privé, et ma famille, voilà, on a cotisé. C'est une cotisation quelque part, mais c'est une participation financière. Voilà, on a donné 100 euros, ça donne, il y a 34 euros finalement, puisque le reste est défiscalisé à hauteur de 66%. Et l'argent, alors je dis parce que je saurais en faire bon usage pour la rivière, parce qu'en fait je ne suis que le, là aussi je suis un peu la personne qui révèle, j'essaie au travers de l'action du parc et de toutes mes collègues aussi qui travaillent sur le sujet, de révéler l'intérêt de préserver cette rivière, et que l'argent qui accompagnera les financements publics, puisque on a des financements publics qui existent, mais...
À hauteur de 70%, c'est ça, sur ce projet, et 30% de mécénat, c'était ça l'idée?
Alors, 70%, donc, les personnes donc, qui participent au don, 66% du don reviennent directement au programme de la rivière. Mmh. Et 30% alimentent le réseau national des rivières sauvages, donc toutes les études qui sont conduites aussi à l'échelle de ces rivières, et qui, nous, quelque part, nous reviennent aussi sur une partie. Cet exemple, cette année, on a eu des récits numériques qui ont été faits, financés par l'ensemble des cotisations, des apports des rivières sauvages de France. Voilà. Donc il y a du retour aussi, je dirais, voilà, même si ça représente 30% au final, au niveau national, qui est l'essentiel étant apporté à la rivière que vous choisissez, puisque sur le site internet, en allant sur le site directement, donc vous avez un onglet pour choisir votre rivière. Donc je protège ma rivière, en fait. Je donne à ma rivière. Voilà, c'est un peu égoïste comme ça. Mais en même temps, c'est aussi de montrer tout l'attachement qu'on peut avoir à cette proximité-là qu'on a avec un environnement exceptionnel. Ouais. Donc dans le programme d'action aussi, on a prévu de faire des voyages inter-classes de rivières sauvages, à savoir permettre à des enfants d'un territoire de rivière labellisée de pouvoir rencontrer des enfants de notre territoire de rivière labellisée. Et donc là, le projet qu'on a à nous, c'est de faire donc un échange entre une classe de la Grande Leyre, une classe de primaire, et une classe de la Pique et Jaune, donc deux rivières qui sont dans la Creuse, sur le PNR Mille Vaches en Limousin. Voilà, donc c'est à la fois un échange inter-parc, mais aussi un échange inter-rivière rivière sauvage, avec du coup voilà, cette mobilisation aussi financière qui pourrait accompagner le projet pour que les enfants puissent prendre le bus tout simplement déjà pour aller là-bas, les questions logistiques, mais derrière il faut savoir qu'il y a vraiment du contenu et les enfants vont être tout au long de l'année vont pouvoir travailler sur leur rivière déjà pour qu'ils puissent en parler à leurs voisins de la Creuse.
Trop bien.
Voilà, ça n'a pas monté donc on peut continuer.
Ah bah j'ai échappé.
Merci beaucoup.
Voilà, mais merci à toi. Merci à toi. Bon, moi je suis bien quand tu viens là, moi. Merci. Thank you.